Voilà. On va peut-être commencer en attendant qu'il arrive avec nous. C'est une conférence autour de l'Uchronie avec cette question « Pourquoi tant d'Uchronie aujourd'hui ?» On va en débattre avec nos invités, avec trois personnes qui sont avec nous. La première, qui est juste à côté de moi, c'est Hugo Bellagamba. Et lui, en matière d'Uchronie, c'est dire s'il connaît, puisqu'il en a fait... Et pas qu'un peu, notamment des romans, de très bons romans qui s'appellent Tancrède, on parlera des croisades, la huitième colline de Rome, c'est une uchronie autour de Nice, mais il a aussi fait une superbe nouvelle avec l'apopsis républicain, je l'ai bien dit ? Je l'ai bien dit. Ouais, presque, je l'ai presque bien dit. Donc voilà pour Hugo Bellagamba. À ses côtés, Roland Wagner. Roland Wagner qui vient de signer un excellent roman qui s'appelle Rêve de gloire, uchronie multiple, assez inclassable, notamment autour de l'Algérie. Notamment, parce qu'il n'y a pas que ça, et loin de là, dans ce livre. Et puis notre invité qui est à notre extrémité, c'est Pierre Chotard. Pierre Chotard, il est responsable des expositions temporaires du château des Ducs de Bretagne, donc autant dire qu'il travaille pas très loin, et il va nous parler notamment de son exposition... Il va nous parler de son exposition Hambourg, New York, l'Austria, une tragédie dans l'Atlantique. Voilà, on va pouvoir en discuter un petit peu ensemble. Alors, l'Uchronie, vous le savez tous, c'est un jeu avec l'histoire, c'est la question du « et si l'histoire avait été changée ?» Et si Napoléon avait gagné Waterloo, et si les Allemands avaient gagné la Seconde Guerre mondiale, par exemple. Donc on imagine toutes les conséquences d'une histoire qui dérive par rapport à celle que nous connaissons. On va déjà commencer à faire un petit tour de table avec nos intervenants pour leur demander un petit peu comment est-ce que eux, ils ont traité l'Uchronie et pourquoi est-ce qu'ils ont eu envie de parler de l'Uchronie. Hugo, on commence par toi. Alors, plusieurs Uchronies à ton actif. Qu'est-ce qui te plaît dans ce genre ?
Alors, bonsoir à tous d'abord. Ce qui me plaît dans ce genre, c'est le sentiment peut-être faux que je peux avoir d'être capable d'en écrire, déjà à la base. Moi, je suis historien du droit et des idées politiques de formation, donc je ne vais pas faire de la hard science sur la physique quantique. Donc déjà, naturellement, je sentais plus attiré par l'histoire comme source principale d'inspiration. Et puis parce que l'Uchronie, pour moi, alors on n'est pas obligé d'être d'accord, hein, on verra ce que dira Roland, notamment, l'Uchronie pour moi est une continuation de l'utopie. Et que cette utopie, que l'on connaît évidemment depuis tout un tas de siècles, hein, on va parler évidemment de Thomas More, tout ça, mais à partir du XVIIIe siècle, l'utopie devient une utopie dans le temps, une utopie dans le futur, avec l'an 2440, notamment de Louis-Sébastien Mercier. Et je pense que l'Uchronie, telle qu'on la pratique aujourd'hui, telle qu'on en écrit aujourd'hui, est encore fille, une continuation de cette utopie, c'est-à-dire au final, elle est devenue une manière d'interroger nos représentations de la société, de partir à la recherche d'alternatives qui auraient pu être meilleures, ou au contraire d'alternatives plus mauvaises, qui nous permettent de réévaluer la valeur de notre propre histoire. Et c'est ça qui m'intéresse, cette recherche spéculative sur l'histoire. Et comme je le disais tout à l'heure, d'ailleurs, il y a une journée pour les professionnels, pour les bibliothécaires. C'est aussi une manière peut-être de permettre de la recherche universitaire aussi sur la science-fiction, puisque la science-fiction aujourd'hui est devenue sujet d'études universitaires, véritablement en France, depuis un certain nombre d'années maintenant. Il y aura probablement un jour des études universitaires sur Rêve de gloire, j'en suis certain. Et qu'elle permet, cette uchronie, justement, de connecter la science-fiction aux sciences humaines, aux sciences sociales, sociologie, anthropologie, histoire, et que pendant très longtemps, on nous a dit que la science-fiction était liée aux sciences exactes, et je pense qu'il est plus que temps, aujourd'hui, au XXIe siècle, de rappeler que la science-fiction, c'est aussi une littérature qui s'abreuve aux sciences humaines. Voilà. Et faire de l'uchronie, c'est une manière pour moi de le rappeler. Voilà.
Tu travailles en université, à l'université de Nice. Le fait que tu écrives des uchronies, ça a interpellé tes collègues. Comment ça a été perçu dans le monde universitaire ?
Alors voilà, il ne parle plus. Non, le monde universitaire français est encore un peu rétif à la science-fiction. Et à dire vrai, ça s'ouvre quand même. C'est-à-dire que, non, il me parle encore, évidemment. Ou alors s'il ne me parle plus, c'est pour d'autres raisons, pas pour l'Uchronie. Mais disons qu'il, petit à petit, il commence à comprendre que ça peut être aussi un instrument de travail. Voilà, un outil d'investigation, un instrument de travail, la science-fiction. et en particulier dans les domaines que moi je, dans lesquels je suis actif, effectivement, l'Uchronie est un bon moyen d'amener dans la recherche en idées politiques la science-fiction. Et puis, il ne faut pas oublier quand même que l'Uchronie, hein, contrairement à ce que peut-être certains d'entre vous imaginent encore, même si maintenant vous la connaissez de mieux en mieux, c'est un vieux genre, en fait, hein. L'Uchronie n'est pas apparu là, maintenant. Ce n'est pas parce qu'on a aujourd'hui pléthore d'Uchronie qui se publie que c'est un genre récent. L'Uchronie date du 19e siècle. Le mot « Uchronos » est inventé et formalisé par Charles Renouvier, qui est un philosophe français, républicain. Et donc, c'est quelque chose qui fait partie aussi de l'histoire et de la littérature et de la pensée politique. Simplement, la manière dont on en écrit aujourd'hui est beaucoup plus sur les codes du roman, de la dramaturgie, de la mise en scène, etc., des points de vue, des personnages, etc. Mais donc, non, il n'y a pas de... Non, il ne me regarde pas de travers. Si je faisais que des uchronies, oui, il me regarderait de travers. Mais on a quand même une légitimité. Aujourd'hui, la science-fiction a retrouvé sa place. Et si elle avait perdu, pour tout un tas de raisons qu'on ne va pas examiner là maintenant, je pense qu'aujourd'hui, aussi bien dans l'esprit du grand public que dans l'esprit de l'université ou même de l'éducation générale, à travers l'Uchronie en particulier, la science-fiction a sa place. Elle est parfaitement légitime et elle est de moins en moins contestée.
Voilà. On en parlera peut-être tout à l'heure avec Pierre Jotard, mais peut-être question aussi à Roland. Qu'est-ce qui t'a intéressé dans l'Uchronie au point d'en faire ce roman Rêve de gloire ?
Bon, d'abord, je voudrais préciser que je suis à peu près d'accord à 99,98% avec Hugo. Qu'il y a un point sur lequel je ne suis pas d'accord, c'est quand il disait qu'une uchronie peut être meilleure ou pire que notre monde. Et moi, je pars du principe que beaucoup, beaucoup d'uchronies, et notamment la mienne, ne sont ni meilleures ni pires. Elles sont simplement différentes. Et par exemple, le maître du Haut-Château de Philippe K. Dick, qui décrit un monde où les nazis ont gagné la Deuxième Guerre mondiale avec les Japonais, où les États-Unis sont coupés en deux, occupés d'un côté par les nazis, de l'autre par les Japonais, est clairement une utopie pour, enfin en tout cas, et serait pour des nazis, ça serait très positif. Par contre, pour des communistes, ça serait très négatif. Là, je caricature un peu, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il y a le point de vue qui est très important, et c'est pour ça que moi, je défendrai cette idée de neutralité de l'Uchronie, au moins neutralité pour l'auteur. C'est-à-dire que quand j'ai écrit Rêve de gloire, une chose que j'ai essayé de faire, c'est de pas me poser la question, ou si je me la posais, de la rejeter tout de suite, pour savoir si ce monde était meilleur ou pire que le nôtre. Il n'est pas meilleur ou pire que le nôtre, il est différent. Il est différent, bon, je ne vais pas citer toutes les différences, je ne vais même pas en citer une seule, parce que... C'est pas tellement ça qui est intéressant, c'est pas le détail, mais dans le principe, c'est un essai, comme l'a dit Jérôme, et c'est un essai qui repose sur l'histoire et non sur une extrapolation future. Je considère que beaucoup d'uchronies sont de la pure fiction spéculative, donc où on pose des bases et où on tire des conclusions. Et où on développe des choses à partir de ces bases. Donc on a un postulat, c'est en ce sens que l'uchronie est... pour moi, vraiment de la science-fiction, au sens où science-fiction recouvre la fiction spéculative. Maintenant, la neutralité est aussi très très importante, parce que, mais ça je pense qu'on en parlera dans un autre débat sur justement uchronie et révisionnisme, parce que, bon, à partir du moment où l'auteur, je dirais, s'implique en décrivant un monde qu'il considère comme... utopique ou dystopique par rapport au nôtre, il sort de sa position d'auteur, de créateur de monde imaginaire, pouvant susciter des interrogations et des réflexions chez le lecteur, pour entrer dans une démarche qui est une démarche d'imposition de son, je ne vais pas dire de son idéologie, mais en tout cas de sa vision. C'est très clair. Le fait qu'il existe, avant la mienne, une uchronie sur la guerre d'Algérie qui raconte comment l'OAS gagne la guerre d'Algérie en 1963 en massacrant plein d'Arabes, montre bien, justement, à mon sens, la différence. C'est-à-dire que là, on a affaire... Ce que, je n'ai pas lu, hein, c'est ce que Éric Henrier, le grand spécialiste français des uchronies, m'en a dit, que je répète. On a quand même affaire à quelque chose qui est un livre purement idéologique, à la limite révisionniste, et qui veut montrer à quel point ça aurait été meilleur si. Moi, je ne suis pas parti du principe que c'était meilleur, ni que c'était pire. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe ? Ben, y a des choses qui sont meilleures, et il y a des choses qui sont pires. Et les choses qui sont meilleures, eh ben, c'est pas pour les, comme tu le disais, c'est pas pour les mêmes personnes. Il y a certaines personnes qui vont lire mon bouquin et qui vont dire, ouais, c'est une super utopie, il y a des hippies dans la casbah et tout. Ouais. Puis il y a des gens qui vont dire, non mais attends, c'est quoi cette merde là ? Et la grandeur de la France et de l'armée française, elle est ridiculisée et tout ça. Voilà. C'est une question de point de vue. Et l'auteur, lui, doit être neutre par rapport à... Enfin, je pense que qu'il vaut mieux que l'auteur soit neutre. Et que c'est qu'on fait les meilleures uchronies en étant neutre, même si on peut... Non, évidemment, on a des préférences, ça c'est toujours comme ça. Et ce qui m'a motivé pour écrire cette uchronie, c'est que moi je suis né en Algérie en 60, je suis arrivé en France en 61, et disons, jusqu'à l'âge de 13-14 ans, j'étais persuadé que l'indépendance de l'Algérie était une injustice. Parce que la famille Pied-Noir, forcément, quoi. Je me suis quand même un tout petit peu documenté, beaucoup, quand même discuté avec beaucoup de gens, et j'ai mis très longtemps à conceptualiser cette uchronie. J'ai mis pas si longtemps que ça à l'écrire, en fait, mais c'est parce qu'il y avait tout le travail qui était fait avant. Et... Mon idée, finalement, était, d'une part, en essayant d'adopter un point de vue le plus neutre possible, donc de donner la parole au plus grand nombre de gens qui ont les opinions les plus variées. Et une autre chose, et c'est peut-être là que le livre possède une dimension subversive, où je suis sorti de ma neutralité, c'est-à-dire que, au lieu de faire ce que beaucoup de gens attendaient, sans doute, qui était quelque chose où finalement ce qui s'est passé c'est mieux pour telle ou telle catégorie de la population française. Non, ce qui s'est passé dans ce monde c'est mieux pour la population algérienne, parce que ce sont les démocrates qui ont gagné et pas les dictateurs, pas les fachos, quoi. Là oui, je me suis impliqué, je suis sorti de ma neutralité. Simplement, c'est pas ça le thème de l'uchronie. Mon uchronie n'a pas ce thème-là. Ça, c'est un effet collatéral. Mais c'est ça qui est important au niveau de mon engagement personnel. C'est-à-dire que je pense que cette Algérie est meilleure que l'Algérie actuelle. Et il suffit de voir ce qui se passe en Algérie actuellement ou ce qui s'est passé depuis quelques années pour bien se rendre compte que oui. Maintenant, au niveau de ce qui est de la France, de la population européenne d'Algérie et de tout un tas de choses, l'uchronie, elle, est neutre, par contre. Mais je le répète, l'engagement et le point de vue de l'auteur ne s'est appliqué finalement que sur un aspect secondaire. Et un aspect secondaire, un aspect sur lequel... je veux dire, on a le droit de mettre un message d'espoir, quoi, dans un livre, même si on essaye d'être neutre. Et là, moi, mon message d'espoir, il n'a rien à voir avec la France, il n'a rien à voir avec les pieds noirs, comme on les appelle, mais il a tout à voir avec la situation actuelle de l'Algérie. Voilà, c'est tout.
Alors, avant que... Hugo rebondisse. Simplement, nous accueillons un nouvel auteur, Jean-Michel Pongio.
Richard Marazano.
Richard Marazano, c'est le...
Je m'excuse de mon retard.
Auteur de bandes dessinées, notamment certaines bandes dessinées qui jouent pas mal avec l'histoire, hein, le complexe du chimpanzé ou Jérusalem. On en parlera un petit peu ensemble. Juste, Hugo, vous voulez ajouter un petit... Tout à l'heure, d'accord. Alors peut-être justement, puisque vous êtes arrivé avec nous, on parlait d'uchronie, de jeu avec l'histoire. Qu'est-ce qui vous intéresse dans
cette thématique ? Justement, je suis très très gêné parce que ça se positionne pas au niveau de l'intérêt, mais je me définirais comme un ardent adversaire de l'uchronie. C'est un genre que je réfute et qui me semble éminemment réactionnaire. Et vous parliez tout à l'heure d'un débat qui s'intitulerait uchronie et révisionnisme. Et par contre, je m'excuse également parce que je ne connais pas les œuvres des personnes qui sont présentes. Donc, je m'en excuse beaucoup. Et donc, mes critiques n'iront pas vers vos livres. Voilà, c'est un positionnement qui est purement général et qui est, qu'on va dire, purement philosophique et peut-être plutôt politique d'ailleurs. D'ailleurs, j'étais très touché par ce que vous avez dit sur votre positionnement par rapport au récit. Le besoin de neutralité que vous aviez et en même temps la catharsis que ça a été pour vous. Moi, j'ai un vrai problème avec l'uchronie parce que justement, les grands modèles que vous donniez de Philippe K. Dick, les nazis auraient gagné l'espoir. Moi, j'aurais un scoop, c'est les nazis qui ont gagné la Seconde Guerre mondiale. Après la Seconde Guerre mondiale, tous les grands industriels qui avaient mis les nazis au pouvoir, que ce soit Ford, que ce soit IG Farben, que ce soit IBM, etc., étaient au pouvoir après-guerre. Les types tenaient les grands ministères. On a eu des types qui ont été chefs de la police, qui étaient des mecs qui avaient déporté des gens. Donc les nazis ont gagné la guerre. Le colonialisme ne s'est pas arrêté. L'entreprise coloniale nazie ne s'est pas arrêtée. L'antisémitisme n'a pas disparu après-guerre. Enfin, toutes ces choses-là sont encore là. Et ce sont des cancers de l'Occident qui existent encore. Donc, cette histoire d'une uchronie où les nazis auraient gagné la guerre, ce ne serait pas comme la vraie vie qu'on a connue, disons que c'est des nazis plus radicaux qui ont gagné la guerre que ceux que l'Occident se coltine depuis 50 ans. Après, j'avoue encore mon ignorance des noms des auteurs. Il y a une uchronie, je crois, qui raconte l'histoire d'une Amérique où ce seraient les Noirs qui domineraient les Blancs et qui les réduiraient en esclavage et pas l'inverse. Alors je ne connais pas le titre. Ça m'a été cité en exemple par un auteur de bande dessinée avec qui j'avais eu le débat. Et justement, il dit, mais tu vas lire ça, c'est super, parce que c'est une uchronie et c'est vachement humain, parce que ça montre aux Américains blancs que finalement, voilà ce qui leur arriverait, voilà ce qu'ils font aux autres, donc ils peuvent s'identifier. Je dis, absolument pas, c'est le discours du Ku Klux Klan.
Juste une question, est-ce que l'uchronie en question, c'est un livre... Enfin,
c'est un roman.
Est-ce que c'est un roman de Robert Heinlein qui s'appelle Farnham's Freehold? Parce que si c'est ce texte-là, c'est pas une uchronie.
Je sais pas, c'est un texte qui m'était présenté par un auteur comme étant une uchronie et dont je me souviens plus le titre de l'auteur.
Non, il se situe dans si c'est le texte auquel nous pensons, il se situe dans l'avenir, donc c'est pas une uchronie.
Ah, donc voilà. Je suis désolé. Peut-être. En tout cas, l'auteur qui m'avait présenté ce sujet me le présentait comme une uchronie. J'ai un autre exemple plus proche en bande dessinée. C'est un peu délicat parce que c'est une amie à moi qui l'a écrit, qui est au demeurant très talentueuse et très sympathique, où elle raconte une histoire où ce sont les Indiens d'Amérique, donc les Aztèques, je crois, dans son récit, qui envahissent l'Europe et qui massacrent les Européens et qui les mettent sous coupe réglée. La vérité, c'est que ce sont les Européens qui ont évidemment massacré 70 millions d'Indiens. Je pose la question, par exemple, est-ce qu'une uchronie, on raconterait, je vais vous inventer une petite uchronie rapide comme ça, qui serait le contraire de celle de Philippe K. Dick et qui montre bien pour moi l'aspect éminemment pervers et dangereux de l'uchronie. Imaginons que, avant la Seconde Guerre mondiale, ce ne soit pas les nazis qui déportaient les juifs en camp de concentration, mais que ce soit les juifs qui déportaient les Allemands pour prendre le contrôle du pays. Est-ce qu'une telle uchronie ne serait pas d'une indécence totale? Est-ce que
l'uchronie est totalement invraisemblable? Et je pense que
une uchronie est par essence invraisemblable.
Pas du tout. Je veux dire, l'uchronie, c'est comme la spéculation. Attention, l'uchronie, c'est de la spéculative fiction. La spéculative fiction inclut la science-fiction. L'effet de réel et la suspension de l'incrédulité du lecteur sont deux points fondamentaux. Et moi, je suis désolé, une uchronie où c'est les juifs qui déportent les nazis, j'y crois pas.
Un auteur.
Personne ne peut croire à ça, à part des skinheads, des cérébrés.
Moi, je ne me positionne pas en termes de croyance, de possibilité. On peut débattre de ça juste ensuite, mais je me positionne quasiment de manière politique et d'un point de vue de décence. Ça me choquerait énormément. Et on pourrait imaginer un auteur extrêmement talentueux qui anéantirait votre argument avec un certain nombre de présupposés, qui écrirait son récit de telle sorte à ce que, de manière crédible, cette chose-là arrive. De manière crédible dans son récit. Et où ce serait tout à fait fonctionnel. La fonctionnalité, la crédibilité due au grand art de l'auteur n'annihilerait pas la dimension totalement indécente d'un tel propos. Et il me semble que l'uchronie porte en elle-même ce genre de choses.
Attention, parce que là, il y a une question de procès d'intention par rapport aux intentions de l'auteur.
Non, je crois que Philippe K. Dick n'est pas un nazi convaincu, au contraire, quand il dit les nazis ont gagné la guerre, etc.
Bon, quand Norman Spinrad écrit Rêve de fer, parce que autant rentrer directement dans l'art, en plus Norman est là, il pourra confirmer, vous n'avez qu'à lui demander. Attends, quand il écrit Rêve de fer, c'est quoi? C'est un livre qui fait une page. Rêve de fer de Norman Spinrad. Vous tournez la page, il y a marqué du même auteur dans la même collection, et il y a écrit tout un tas de trucs du genre l'Empire de Milan, le Seigneur des astéroïdes, et juste en face, il y a la vraie page de titre qui est Le Seigneur du Svastika par Adolf Hitler. Le bouquin, pour ceux qui ne le savent pas, se passe dans un monde où Hitler, après, en 1919, a émigré aux États-Unis, est devenu auteur de, d'abord illustrateur de pulps, donc de revues bon marché où la science-fiction moderne est née, puis il est devenu auteur de romans de science-fiction et d'heroic fantasy, et il est mort complètement fou de la syphilis en 52, et en 53, on lui a donné le prix Hugo pour son meilleur roman publié de manière posthume, Le Seigneur du Svastika. Bon, et quasiment tout le bouquin est constitué du livre d'Hitler. Moi, je suis désolé, mais quand on face à une uchronie comme ça, qu'est-ce qu'on dit, quoi? Qu'est-ce que, par rapport à ce que tu viens de me dire, qu'est-ce que t'en dis là?
Mon débat est pratiquement pas sur une œuvre en particulier, mais sur le genre lui-même qui me pose un problème. Si vous faites un débat sur uchronie révisionniste, c'est qu'il y a quand même un truc là-dessous. Alors, qui traîne quand même.
Non, il y a
d'ailleurs,
pas.
D'ailleurs,
y a...
vous-même, d'ailleurs, je sais pas, on peut se tutoyer. Enfin, je sais pas. Donc, d'ailleurs, toi-même, tout à l'heure, tu mettais des bémols. Au positionnement.
Mais ce que je veux dire, c'est que des gens peuvent se servir de l'uchronie pour faire du révisionnisme, mais s'ils font du révisionnisme avec une uchronie, c'est plus une uchronie, c'est du révisionnisme.
Mais l'uchronie en elle-même est du révisionnisme.
Mais pas du tout. L'uchronie ne prétend à aucun moment.
Voilà. Non, mais vas-y.
L'uchronie ne prétend à aucun moment être réelle ou décrire ce qui aurait dû arriver ou ce qui est arrivé.
Bien sûr.
Donc ce n'est pas révisionniste.
Mais c'est.
C'est assez drôle. En fait, je suis ravi. C'est cool. Non, c'est vachement bien. Parce que sinon, on est toujours tous d'accord. C'est emmerdant.
Ouais, là, c'est bien.
Donc, merci. Ton prénom ?
Richard.
Richard. Hugo. Chanté. Alors, pourquoi c'est le contraire du révisionnisme et pourquoi c'est pas réactionnaire en deux mots ? Révisionnisme, c'est pas le sujet de ce soir. Hein.
C'est pas le sujet de ce soir.
Et je m'excuse parce que t'as pas encore parlé. Voilà. L'uchronie, c'est le contraire du révisionnisme parce que le révisionnisme consiste à postuler qu'on remet en cause des éléments de la réalité historique. Alors que l'uchronie, chers auditeurs, c'est le contraire, c'est-à-dire ça consiste à partir du principe qu'il y a une histoire réelle, et c'est un jeu spéculatif pour imaginer ce qui se serait passé, vous rappelez vos concordances des tons et vos conjugaisons, ce qui se serait passé si cet événement n'avait pas eu lieu. Ce qui veut dire que le point de départ de l'uchronie, c'est de postuler la réalité du fait en question. Donc c'est le contraire du révisionnisme. On ne s'agit pas de réviser l'histoire. Il s'agit simplement d'imaginer ce qui se serait passé si la réalité avait été différente. Mais elle est postulée comme n'étant pas différente. Ça, c'est un point.
J'adhère d'un point de vue formel.
Formel, social, enfin...
Il y a le positionnement sentimental aussi. Ce que révèle un récit de ce type. L'exemple,
Oui. L'exemple. Ça peut être les sujets choisis par l'auteur, je veux dire...
Une uchronie où des Indiens viennent massacrer les Européens, pour un Indien maya mexicain, c'est une honte. C'est d'une violence totale.
Alors, simplement, je voudrais qu'on passe la parole...
C'est pas forcément un vrai
sens. À Pierre Chotard. Simplement, Richard.
Merci.
Donc, on va se casser la gueule et on revient.
Bon, venez. À la discussion.
Elle
mérite de rebondir sur ma propre approche de l'uchronie, car face à des auteurs patentés qui savent tout de leur sujet, moi je suis le profane qui vient sur un terrain nouveau. Moi, je travaille au Musée d'Histoire de Nantes, donc avec une problématique d'exposition d'histoire, comment montrer l'histoire, comment développer des outils critiques, d'aller découvrir de l'histoire, et ainsi de suite. Et sur un thème qui nous tenait à cœur, à savoir un fait divers, il y a eu une accroche qui nous est venue assez naturellement, c'est d'envisager le jeu spéculatif sur des récits qui n'étaient pas connus comme étant les éléments d'une histoire qui n'était pas réellement bien construite. En gros, c'est un fait divers, c'est un naufrage. Je ne vais pas vous faire l'article dans le détail, mais c'est un naufrage qui est lié à un accident qui concerne Nantes, bien sûr. Ça va se passer au Musée d'Histoire de Nantes, donc il y a quand même un lien avec ça. Et l'histoire générale européenne qui s'est intéressée à ce fait divers, c'est à ce naufrage international au milieu de l'Atlantique, a retenu une hypothèse de travail, à savoir le naufrage a eu lieu à cause d'un accident, malchance, bon, et mettant hors de cause d'ailleurs la société d'armement. Alors c'est pas n'importe qui, hein, on citera leur nom le plus bas possible, c'est une énorme société de fret qui existe toujours aujourd'hui, qui est la deuxième au monde, voilà, bon. Et dans ce jeu d'explicatif autour de la raison qui fait que le naufrage a eu lieu, eh bien, un témoignage est venu émerger comme ça dans des recherches qui nous ont poussé un peu partout. Un prêtre, alors, passant un peu pour fou aux yeux des journalistes qui le publiaient dans le New York Times, dont les archives sont consultables depuis peu entièrement sur Internet jusqu'à cette période-là, et annonçait que il s'agissait de tout autre chose que ce qu'on avait raconté jusque-là, et que, alors, avec des arguments extrêmement bien construits, une logique qui taillait en pièces la totalité de l'argumentaire précédent, venait finalement amener une solution qui, a posteriori, passe pour uchronique. En réalité, il s'agit peut-être de la vérité, mais voilà. Donc, on compte s'en servir non pas pour faire du révisionnisme à l'endroit de la société d'armement, bon, je pense qu'on aurait de gros ennuis et puis c'est pas le jeu, mais bien pour, et c'est là que je rebondis sur votre question de départ qui était de dire ce qu'était l'uchronie dans notre tentative à nous, bah, c'était d'en faire un outil critique tout simplement, pour permettre d'interpréter les sources d'une autre façon, de permettre aux visiteurs de se questionner, de venir s'affronter avec les sources et si possible d'en convoquer de nouvelles. Donc on s'en est dans l'inconnu, on ne sait pas ce que ça peut donner, quel rapport vont avoir le visiteur avec ça, parce que là encore c'est un genre qui est plutôt pas trop présent dans l'exposition.
Alors concrètement, qu'est-ce qu'on a dans l'exposition, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir?
Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir? Eh bien simplement la théorie généralement connue, qui a trouvé des représentations multiples à travers le monde, en Allemagne bien sûr, aux États-Unis, en France et puis un peu partout. Et puis, à un moment donné, dans l'exposition, il y a cette interrogation portée par le témoin uchronique, qui sera incarné par un comédien. Il y aura plusieurs comédiens qui interpréteront des rôles. Et ce comédien viendra apporter sa parole à lui, qui viendra réinterroger toutes les sources disponibles sur place pour cette nouvelle question, ce re-questionnement de l'histoire telle qu'elle nous a été présentée jusqu'alors. Comme c'est une histoire qui est complètement nue, c'est-à-dire elle n'est pas du tout appuyée sur des récits combinés, c'est pratiquement vierge, on imagine que la réaction du public peut être sur un mode de questionnement multiple et de réécriture de sa propre histoire à l'aune de ce témoignage uchronique. Alors là encore, je découvre que ce que nous avons fait, c'est pas vraiment de l'uchronie, c'est juste une hypothèse réexploitée différemment, mais elle s'appuie sur ce genre-là quand même, malgré tout, j'ai l'impression. Votre avis m'intéresse à ce sujet.
Juste avant que Richard intervienne, simplement la réaction par rapport à une exposition comme ça qui interroge l'histoire vis-à-vis de l'institutionnel. Est-ce que c'est quelque chose qui est bien passé, comme le dit Hugo? Est-ce que du coup c'est passé dans les interrogations, non pas dans les mœurs mais dans le commun, ou est-ce que ça a été un peu difficile?
Alors c'est une réponse qui va se conjuguer au futur, puisque cette exposition a lieu l'année prochaine. Les expositions se préparent sur plusieurs années. Je suis sûr qu'il y a des spécialistes de l'exposition ici qui pourront confirmer. Et en l'occurrence, elle se monte depuis 2 ans et elle aura lieu l'année prochaine. D'accord. Donc je vous répondrai l'année prochaine.
Richard. Me vient à l'esprit un questionnement en réaction à ce que vous disiez tout à l'heure. Est-ce que, sur la possibilité de neutralité de l'uchronie, et qui serait finalement une forme scientifique littéraire du what if, comme l'histoire elle-même serait une science positive de l'histoire qui permettrait d'accéder à la vérité. Je vois difficilement comment l'uchronie ne pourrait pas être en elle-même une œuvre politique quand l'histoire elle-même et toutes les versions de l'histoire à toute époque sont elles-mêmes des enjeux politiques.
Mais on est entièrement d'accord. Je veux dire par là que je suis à 100%, voire peut-être même à 200% d'accord avec toi, Richard. C'est que toute uchronie est politique, sauf que pour moi, c'est au sens étymologique du terme, c'est-à-dire qu'elle concerne la société, la police, elle concerne la cité, ce qu'on appelait la cité, aujourd'hui on appelle la société, c'est-à-dire elle concerne les formes de sociabilité et les modalités du pouvoir que se donne un groupe humain. C'est ça le sujet de l'uchronie. Et cette uchronie, elle peut aussi bien être réactionnaire que progressiste. Elle peut refléter des conceptions de l'histoire très différentes. À tout prendre, je le disais tout à l'heure en journée professionnelle avec les bibliothécaires, à tout prendre, en fait. L'uchronie a moins de rapport avec l'histoire factuelle en tant que telle qu'avec l'historiographie, c'est-à-dire la manière dont on pense et dont on écrit l'histoire. Et que souvent, les gens qui font des uchronies, et je pense notamment à Roland, moi, ce que j'essaie de faire aussi, c'est travailler sur la manière dont on comprend et dont on veut écrire l'histoire. Et ces uchronies donc, ne peuvent pas être des révisionnismes parce qu'elles sont justement des recherches intellectuelles spéculatives sous forme de fiction sur le rapport que nous avons au présent à l'histoire. C'est, pour être encore plus clair, on n'écrit pas une uchronie sur l'Algérie aujourd'hui, quand on s'appelle Roland et Wagner, que un autre auteur aurait écrit il y a 20 ou 30 ans sur le même sujet. C'est pas possible, parce que le contexte a changé. Et dans l'environnement culturel qui est le nôtre, l'uchronie, c'est un réceptacle, c'est une sorte de révélateur, au sens chimique du terme, des représentations que nous avons à un moment donné de notre société. Alors les uchronies, tu disais tout à l'heure, réactionnaires, bah, c'est facile de répondre.
J'ai pas dit les uchronistes oui. réactionnaires, par oui. contre.
Voilà, pas en général.
Parce qu'il y a des auteurs oui, oui. qui peuvent, malgré eux,
mais évidemment,
tenir et... un discours. Par exemple, l'auteur qui expliquerait, pour, qui voudrait démontrer l'absurdité du racisme en montrant ce qu'une domination des Noirs sur les Blancs montrerait, donnerait, et en réalité d'une maladresse totale.
Mais tu confonds deux choses. Hein, tu confonds deux choses. Y a l'inversion de point de vue. L'inversion spéculative, ça c'est dans toute la science-fiction. Pas besoin de faire de l'uchronie. Mais non, mais pas besoin de faire de l'uchronie. Lorsqu'on met en scène des extraterrestres qui regardent l'humanité de leur point de vue, on fait cette inversion. Pas la peine d'aller chercher des uchronies. L'uchronie, c'est la divergence ou la convergence, c'est-à-dire à partir du moment où l'histoire a changé telle que nous la connaissons.
La différence qu'il y a entre les extraterrestres et l'inversion de point de vue dans un cas de racisme social qui a existé et qui existe encore, c'est que l'extraterrestre... Bon, peut-être qu'un jour, il y aura des petits hommes verts qui seront victimes de racisme, mais ça sera très malheureux pour eux, puis il faudra qu'on combatte ça. Mais il y a des gens qui ont souffert et qui aujourd'hui souffrent encore de ça. Et à qui on envoie à la figure, je vais être grossier et, comment dire, je viens avec mes grosses pattes pleines de miel, là, ça met des taches partout, à qui on renvoie à la figure un discours qui est finalement fondamentalement raciste, qui est celui des racistes. Je ne dis pas que la personne qui a écrit ce livre l'a fait avec des intentions racistes. Mais malgré tout, est-ce que d'une certaine manière, le fait d'avoir considéré qu'il était possible de faire ce récit-là pour démontrer les choses de cette manière-là, ne procède pas d'un processus lui-même historique qui découle de cette idéologie raciste de l'Occident ?
Roland.
Est-ce que ce n'est pas le cas pour tous les éléments de l'uchronie ? Alors, j'ai été touché par contre par le point de vue que tu adoptais par rapport à l'Algérie, etc., et notamment le parcours.
Ce que je voulais dire... Ouais. Ce que je voulais juste faire remarquer une chose, c'est que un certain nombre d'uchronies contiennent également, je dirais, un discours sur l'histoire, un discours, ou en tout cas une réflexion sur la manière de penser l'histoire et sur la manière d'écrire l'histoire. Et justement, pour mon bouquin, l'une des choses qui m'ont... fil conducteur les plus importants pour moi, et c'est pas du tout un fil conducteur événementiel, ça a aucun... c'est un livre sur l'impossibilité d'écrire l'histoire de la guerre d'Algérie. Et je pense que la plupart des gens qui sont un peu au courant, non seulement de ce qui s'est passé pendant la guerre, mais des querelles mémorielles, je pense qu'on peut les appeler comme ça, parce que, par exemple... pour les pieds noirs d'Alger, je crois que c'est le 26 mai 1962, jour de la fusillade de la rue d'Isly, où l'armée française a tiré sur des civils européens qui n'étaient pas armés, est une date importante. Par contre, ces gens-là ne veulent pas entendre parler du 19 mars 1962, qui est la date du cessez-le-feu en Algérie. Pourtant, en France, la date du 19 mars 1962 est la date qui a été retenue pour célébrer la fin de la guerre d'Algérie. Donc déjà, là, on a un problème. En plus, pour les Algériens, ces deux dates-là, elles n'ont aucun sens. Eux, ils penseraient plutôt à la date de l'indépendance, qui doit être le 1er juillet 1962. Donc déjà, on ne peut même pas avoir... OK, on ne s'entend pas. Mais déjà, on ne peut même pas avoir une date commune de
célébration ou de recueillement, appelez ça comme vous voulez. Alors comment est-ce qu'on peut écrire l'histoire après ? Moi j'ai écrit le bouquin là-dessus, parce que je voyais vraiment pas... Enfin, ça me paraissait vraiment important.
Et dans le bouquin, tu as choisi une date pour la fin de cette guerre ?
Ah oui, mais c'est en 65, et puis la date n'est pas indiquée. Non, le seul truc que j'ai fait, c'est que j'ai fait mourir le général de Gaulle un 17 octobre. Ça me paraissait mérité, voilà, c'est tout.
Hugo, juste pour... Tu voulais finir, parce que...
Oui, un truc encore, mais on a peut-être des débats un peu trop théoriques là pour le compte, et c'est un peu dommage peut-être, mais il y a un truc qui m'embête un peu, même si le débat est très intéressant, mais tu disais, est-ce qu'on a le droit d'envoyer à la face des gens tel ou tel discours, etc.
Je ne parlais pas de droit, hein. je parlais de maladresse, de danger,
moi je sais pas, j'ai le malheur d'être universitaire avec tout ce que ça implique d'avantages et d'inconvénients. Et les universités sont nées en Italie à la fin du Moyen-Âge, à la Renaissance, comme des zones franches. C'est-à-dire des zones où la liberté de parole est essentielle. Et jusqu'à maintenant, j'ai toujours considéré que la fiction, et en particulier la science-fiction, est un lieu de liberté. C'est-à-dire qu'on peut commettre toutes les maladresses qu'on veut, et on peut très bien se faire insulter au détour du chemin par les personnes auxquelles, justement, on a voulu rendre hommage. Ce qui veut dire qu'on s'est planté. Parfois, ça arrive très souvent. Mais il ne faut pas oublier un truc très important, cher public, c'est que quand on est auteur de science-fiction, on raconte des histoires et qu'on n'a pas la prétention de faire de l'histoire. Je veux dire, moi, quand j'écris une uchronie, je ne fais pas un cours d'histoire. Si je veux faire un cours d'histoire, j'ai mon amphi d'histoire du droit où j'ai 300 étudiants captifs de première année qui sont obligés de m'écouter. Enfin, ils peuvent partir, en fait, mais je leur fais croire qu'ils sont obligés. Donc, c'est vrai, je veux dire, c'est bien de poser ce problème-là. Non, de
je
poser ce
problème... Je ne parlais pas d'interdire les uchronies.
Oui, non,
hein.
Effectivement. Mais de poser ce problème de la dangerosité ou du caractère choquant que peut avoir l'uchronie. Effectivement.
Ou de la maladresse.
Mais la maladresse, peut-être, mais au-delà de ça, est-ce que ça doit être un frein à l'écriture et à la fiction ? Si je suis maladroit, j'en porte la responsabilité, mais...
Ah, mais j'ai été mettre des freins à aucun uchroniste sur leurs œuvres. Hein. Et je découvrirai vos livres avec plaisir.
Alors voilà, c'est ce qui s'appelle un débat animé, comme il en arrive. Et malheureusement, quand un débat est animé, le temps passe plus vite. C'est une règle de la physique, c'est comme ça, quand on parle, ça va vite. Mais je vais te passer la parole, Georges Bormand, qui est au premier rang, je te vois. On va passer aux séances de questions du public, parce qu'il est déjà 18h30, on va se permettre 10 minutes de retard. Est-ce que quelqu'un aurait une question à poser à nos intervenants ? Georges, tu veux parler ? Non. Alors, attends. Avec un micro, c'est mieux. Attends le micro, Georges. Attends.
Je parle pas assez fort, ça c'est original. Bon, donc je disais simplement que tout ce débat sur le chronique s'appliquait à n'importe quelle fiction, utopie ou roman de manière on ne peut plus générale. La remarque de Richard sur le chronique est généralisable à toute la littérature.
D'accord. Est-ce que quelqu'un aurait une question à poser à nos invités ? Allez-y, c'est le moment pour vous y... N'ayez pas peur. D'abord parce qu'on les retient, donc ils ne sauteront pas... Ah, oui, après, promis. Si vous êtes loin des intervenants, vous pouvez y aller. Hein. Le temps qu'ils arrivent jusqu'à vous, vous pourrez courir, ce sera bien.
Bonsoir. Et donc, pourquoi tant d'uchronies, qui était le thème... Est-ce que vous pourriez faire une petite parenthèse là-dessus ?
Hugo, pourquoi tant d'uchronies aujourd'hui ? Ouais,
moi, je dirais une chose, tout en me dégageant complètement de ça, c'est que l'uchronie, c'est quand même quelque chose qui est beaucoup plus facile à... disons qu'en ce moment, nous sommes dans une période où le mur du futur a un peu écrasé l'imagination d'un certain nombre d'auteurs de science-fiction, dont je ne citerai pas les noms, et que donc, ils ont préféré... l'uchronie est... Je vais être méchant. L'uchronie est quelque part une facilité parce qu'elle montre un monde qui est plus familier qu'un monde futur, par exemple, hyper technologique, avec des petits hommes verts, des petits hommes bleus, des petits hommes jaunes, des blobs et des humains augmentés. Je suis encore obligé de parler de mon expérience personnelle, mais c'est vrai que bon, là, le bouquin, j'ai passé tellement de temps dessus que... voilà. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que c'était beaucoup plus facile d'être allusif dans une uchronie, parce qu'on parle finalement, le monde diverge à un ou plusieurs moments, mais si par exemple, je dis que ce n'est pas Khrouchtchev qui a succédé à Staline, mais Beria, toute personne connaissant un peu l'histoire de l'Union soviétique va au choix s'indigner, ricaner ou se torcher avec le bouquin. Alors que si je dis que à la place de Blushnouf, qui était le gouverneur de la galaxie au temps des Black Snack, c'est Burp qui l'a remplacé, ça ne va rien dire à personne. Donc le jeu avec l'histoire fonctionne aussi avec les connaissances et avec la réalité historique. Et c'est vrai que, par exemple, écrire une histoire où Charles Manson n'a pas assassiné Sharon Tate, mais Ronald Reagan, quoi, personne ne rit. Bon, d'accord. Ok, bon, ou que le général de Gaulle a été assassiné à la Croix de Berny et pas au Petit Clamart. Là, on a quelque chose qui est beaucoup plus difficile à faire dans une science-fiction qui se passe dans le futur. Alors, pourquoi tant d'uchronie ? Eh bien, peut-être parce que, justement, face au mur du futur, la fiction spéculative, et là, je suis méchant avec personne parce que moi-même, je l'ai fait, la fiction spéculative a peut-être tendance à se réfugier, justement, dans l'uchronie, qui permet d'utiliser les techniques, les méthodes et les outils qui ont été développés par la science-fiction et la fiction spéculative, ce qui est presque la même chose, dans un cadre, disons, qui sera plus familier au lecteur, parce qu'on va moins le dépayser que si on l'envoie dans la 18000e galaxie en compagnie des blobs de Blücksmurk, qui, comme chacun le sait, ont 18 sexes et beaucoup de problèmes de... Enfin, c'est pas des couples, mais enfin, vous voyez.
Est-ce que pour vous, en tant qu'auteur, il n'y a pas peut-être aussi une envie de vous réapproprier le questionnement historique qui était essentiellement... dirigé par la politique pour qu'il soit réapproprié par les artistes, une vision qui serait peut-être plus populaire, pas au sens méprisant parce que c'est un art populaire, je veux dire, mais non, de non-pouvoir, de contre-pouvoir.
Alors, je sais pas si ça répond à la question, mais ce qui est certain, c'est que le truc qui m'a le plus éclaté dans ce bouquin, c'est d'écrire une autre histoire du rock'n'roll où il n'y a pas de Beatles, où le plus grand groupe du monde c'est les Yardbirds, où Led Zeppelin n'apparaît jamais parce que les Yardbirds continuent sous diverses formations, où on ne sait pas ce qu'est devenu Hendrix, etc., etc. C'est ça qui m'a éclaté. Ce que je me suis réapproprié, c'est pas l'histoire de l'Algérie, c'est pas l'histoire de la France. Là, on était dans la fiction spéculative, je veux dire, mais j'ai essayé d'être neutre. Par contre, dans l'histoire du rock'n'roll, j'ai pas essayé d'être neutre. Je veux dire, je me suis éclaté comme un fou. J'ai mis plein d'allusions que personne ne verra pas, mais je m'en fous complètement. Là, je me suis réapproprié quelque chose. L'histoire du rock'n'roll et l'histoire de la culture psychédélique. Là, ouais, je l'avoue, effectivement. Mais par contre, pour ce qui est de l'histoire, entre guillemets, plus sérieuse, je me suis forcé à être le plus neutre possible, justement parce que je pense que l'un des principes, que les problèmes que rencontre la société française aujourd'hui, bon, je veux dire à part le nabo, c'est quand même, viennent de la guerre d'Algérie, que les problèmes de racisme, que les problèmes d'intégration, d'immigration et tout ça ne sont que la projection, la continuation de choses qui sont apparues avant et pendant la guerre d'Algérie, et ne sont que la projection de fantasmes qui sont en grande partie nés de la guerre d'Algérie.
Oui, mais même avec une position de neutralité, il y a une position de questionnement. Donc est-ce que les succès de l'uchronie ne viennent pas d'un besoin de se réapproprier le questionnement qui a été, je dirais,
Hugo,
capté par la politique depuis bien longtemps? La politique en tant que pouvoir, pas en tant que simplement la gestion de la police.
C'est un peu...
Attends, j'ai juste un truc à dire, c'est que moi, il y a une chose qui m'a profondément indigné, c'est quand ils ont voulu faire passer cette loi sur les bienfaits de la colonisation. Et ça, j'ai trouvé que c'était complètement crétin, d'une part, parce que c'est pas aux politiques d'écrire
l'histoire. On a un président parfaitement uchroniste qui nous expliquait que la France n'avait commis aucun crime contre l'humanité, n'avait pas à rougir, parce qu'elle n'avait commis aucun crime pendant la colonisation.
C'est sûr, mais il avait quel âge pendant la colonisation? Moi, je suis fils de légionnaire, j'ai quand même une légère idée des crimes qui ont été commis. Hein.
Alors, Pierre.
Moi, j'avais une question, en fait, qui s'adresse aux autres intervenants, qui... viennent télescoper un désirement habituel de l'histoire, ce qui consiste à appliquer des fins à la téléologie, en fait, une façon de lire l'histoire qui relie les événements entre eux. Est-ce que l'uchronie, par sa dimension historique, vient pas apporter une réponse pour revenir à l'état initial, aux sources, ou aux événements, ou à la lecture des événements dans leur dialogue les uns avec les autres? dans leur cheminement. Est-ce que c'est pas ça que ça vient résoudre comme problème, et c'est pas l'élément le plus séducteur de l'Uchronie à ce titre-là?
Oui, en fait, à l'envers de ça, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller vers le côté démiurgique de l'Uchronie, c'est-à-dire l'Uchronie qui apporterait des réponses à l'histoire qu'on n'a pas dans l'histoire réelle en raison de sa complexité, elle vient au contraire accentuer la complexité de l'histoire réelle. C'est-à-dire qu'elle vient, c'est une leçon d'humilité. Toute projection qu'on a sur l'histoire est forcément subjective, et c'est une simplification de la réalité. Ouais. Voilà. Donc pour sortir, si vous voulez, l'Uchronie pour moi elle est un instrument pour sortir de la vieille dichotomie histoire volontariste, histoire marxiste, quoi. Parce que c'est beaucoup trop simple, et donc c'est fondamentalement insuffisant. Que finalement l'Uchronie, enfin moi quand j'ai écrit Tancrède, j'ai voulu essayer de montrer que finalement comment trouver, comment mettre en scène une divergence, c'est extrêmement complexe en fait. Un point de divergence comme ça, c'est très simplificateur. Si on veut essayer d'approcher quelque chose de réel, on s'aperçoit qu'il y a tout un tas de paramètres, d'éléments culturels, religieux, sociaux, individuels, factuels au sens premier du terme, qui entrent en cause, et c'est très difficile de changer véritablement les choses. Et donc c'est un questionnement ouvert qui montre que faire de l'histoire c'est extrêmement complexe, et que le faire sans idéologie c'est pratiquement impossible. L'histoire objective, les faits sont objectifs, lorsqu'on a un fait qui est avéré, qui est clair, les faits, l'événement en tant que tel n'est pas contestable, mais la lecture de l'événement, je vous défie de me trouver une lecture objective universelle d'un événement. Chacun aura toujours des points de vue. Alors la science-fiction fonctionne par points de vue, donc l'Uchronie est un jeu spéculatif sur les points de vue que nous avons sur l'histoire. Voilà. Et c'est plutôt une leçon d'humilité qu'autre chose. Alors c'est une humilité, c'est-à-dire montrer que comme la science et comme la physique quantique, là aussi on jongle avec sans vraiment la comprendre, il faut être clair, la science-fiction utilise les mots et les images de la science, mais rarement elle est conforme véritablement à la démarche scientifique, à part la hard science qui est quand même un cas particulier. L'Uchronie, c'est pas l'histoire, faut arrêter. C'est juste un jeu sur l'histoire qui montre effectivement un besoin, peut-être, oui, un intérêt pour l'histoire, pour ce que représente l'histoire.
Pierre, très très.
Est-ce qu'il y a, alors, j'enregistre la réponse, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même des degrés très très variés dans la conduite des scénarios uchroniques, entre des scénarios qui sont plus du domaine de la science-fiction ou de ceux qui sont un peu de la 16 pour reprendre un jeu d'hypothèses vraisemblables? Et là, on retombe sur la dimension vraisemblable de l'Uchronie. Est-ce que quel rapport vous avez avec ce souci de vraisemblance?
Juste, il nous reste deux petites minutes. Les hautes autorités des Utopiales m'ont indiqué qu'on avait un petit peu trop dépassé. Donc, juste deux minutes.
Alors là, je peux pas vraiment répondre, mais ce que je peux dire, c'est, je vais citer, il y a l'Uchronie de Xavier Mauméjean qui s'appelle Rosée de feu. Où finalement la divergence uchronique, c'est que c'est un monde où il y a des dragons. Voilà. Donc là, est-ce qu'on est dans la fantaisie? Non, parce que les dragons sont rationalisés. Mais c'est notre monde. C'est notre monde, mais il y a des dragons. Et donc les kamikazes, ils sont à bord de dragons dans l'histoire. Et moi, personnellement, je trouve que c'est un excellent livre. Mais le point de départ, effectivement, là, on est dans quelque chose qui est purement imaginatif. Dans mon bouquin, il n'y a aucun élément qu'on peut qualifier de science-fictif. Je n'ai rien inventé, ne serait-ce au niveau technologique, au niveau scientifique ou quoi que ce soit. Ce monde pourrait être le nôtre de ce point de vue-là. Voilà. Par contre, c'est de la fiction spéculative. Donc la spéculation est sur l'histoire. Et quand je dis l'histoire, ça comprend évidemment tout un tas de sociologie, etc. etc. Donc, est-ce qu'on peut mettre les deux livres dans la même catégorie? Mais j'en ai foutrement pas la moindre idée. Il y a un auteur dont j'ai oublié le nom, je crois que c'est... J'ai un trou de mémoire, qui a écrit une trilogie, je crois, où les dinosaures n'ont pas disparu, et donc la Terre est peuplée de dinosaures qui ont évolué. C'est pas... C'est qui? C'est Harry Harrison ou Harry Turtle Dove? Je ne sais plus lequel des deux. Voilà. Pareil, quel est le statut de ça? Est-ce qu'on est dans quelque chose qui est...
Derrière ma question, il y avait en gros la réponse potentielle au titre. C'est est-ce que ce n'est pas un fourre-tout incroyable où on arrive à faire rentrer plein de choses, quoi?
À l'Uchronie?
Oui.
Mais toute appellation, je refuse d'employer le terme d'étiquette, toute appellation devient de toute manière, au bout d'un moment, un fourre-tout incroyable. Regarde ce qu'on regroupe sous le nom science-fiction, où il y a des fois ni science et même pas beaucoup de fiction. Donc, au bout d'un moment, n'importe quel mot finit par ne plus rien représenter. Regardez par exemple ce qu'est devenu de nos jours le mot réforme. Aujourd'hui, le mot réforme, ça veut dire revenir à un état antérieur de la société. Moi, j'appelle ça être réactionnaire.
Ça, et pourtant, c'est le terme réforme. Là, c'est de la novlangue, c'est autre chose.
Oui, mais si non, c'est pas de la novlangue.
On prend un terme, on le vide de son sens et on le remplit par le sens opposé. Bon. C'est la novlangue.
Richard, Roland, on va s'arrêter. Vous avez compris, ils sont bavards, mais vous avez le droit de poser des questions en les retrouvant juste après, parce que tout de suite, vous pouvez rester, parce qu'il y a une table ronde sur la ville du futur avec Pierre Bordage, Louis Chiten, Patrick Giger et Eric Vidanlec. Voilà. Merci à vous. Merci à tous. Thank you.